On a le plaisir de retrouver Soizic pour sa chronique Un autre écho de l'écho. Et aujourd'hui, donc, vous nous donnez des nouvelles des prix Nobel.
Eh oui, parce que lundi, le prix Nobel d'économie a couronné trois économistes. Le Canadien David Card, et puis Joshua Angrist et Guido Imbens. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais enfin bon. Une fois de plus, donc, un prix américano-centré, comme d'habitude. Alors, rappelons d'abord que le prix Nobel d'économie en tant que tel n'existe pas. Mais oui, parce que dans son testament, Alfred Nobel n'a jamais mentionné de prix Nobel d'économie, déclarant ce dernier, je cite, « haïr l'économie du fond du cœur ». Alfred Nobel, ne considérait pas les sciences économiques suffisamment objectives et solides pour être mises dans la même corbeille à prix que la physique ou la chimie. Ce n'est donc pas le prix Nobel d'économie qu'ont reçu les trois acolytes, mais le prix de la Banque centrale de Suède en mémoire d'Alfred Nobel.
Et alors, quel est l'objet de leurs travaux, Soizic ?
Eh bien, la vénérable institution a fait preuve d'originalité, puisque les découvertes de ces trois économistes ne cadrent pas vraiment avec la pensée dominante. Le trio, je cite le jury Nobel, « nous a apporté de nouvelles idées sur le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d'expériences naturelles ». Alors en effet, ils ont analysé, avec des expériences grandeur nature et non pas en laboratoire, les conséquences de phénomènes qui jusqu'alors étaient réputés augmenter le chômage, mais qui, dans les cas étudiés, mettaient justement à mal ces conclusions, qui étaient pourtant unanimement admises. Alors, je m'explique. Pour la pensée économique classique, et je pense d'ailleurs aussi intuitivement pour beaucoup d'auditeurs, un afflux de main-d'œuvre étrangère crée un surplus de demandeurs d'emploi, ce qui exerce une pression à la baisse sur les salaires. Or, il s'avère que quand David Card a regardé ce qui s'est passé lors d'un afflux de 125 000 migrants de Cuba en Floride, le chômage n'a pas augmenté, il a même diminué. Que s'est-il passé ? Quel tour de passe-passe ? Eh bien, c'est simplement que les nouveaux arrivants ont aussi été des consommateurs. Ils ont donc accru la demande de biens et services et donc la production des entreprises, évidemment, locales. In fine, comme disent les économistes, ils ont donc généré par leur arrivée des offres d'emploi supplémentaires. De même, dans l'opinion publique, comme aussi pour bon nombre d'économistes de la pensée dominante, un accroissement de salaire provoque mécaniquement une diminution des offres d'emploi, les employeurs préférant substituer des machines aux travailleurs ou encore délocaliser leur entreprise. Alors que, quand en 1992, dans l'État du New Jersey, quand le SMIC local a été augmenté et que l'État voisin de Pennsylvanie, lui, ne l'a pas fait, il a donc conservé un prix horaire plancher inférieur à celui du New Jersey, on pouvait s'attendre à ce que le chômage augmente dans le New Jersey. Eh bien, il n'en a rien été. Pourquoi ? Tout simplement parce que le salaire n'est pas le seul facteur déterminant de l'emploi. Si les employeurs ont réellement besoin de salariés pour assurer une production quand les débouchés sont assurés, eh bien le salaire n'est plus un frein à l'embauche. Alors, il faut qu'il reste dans des proportions décentes, mais tout de même. Et c'est d'ailleurs ce que l'on observe actuellement en France avec la pénurie de main-d'œuvre. Par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, les employeurs ne vont pas couper au fait d'accroître les salaires pour retrouver une main-d'œuvre prête à faire fonctionner leur business.
Mais alors, les Américains deviendraient-ils des révolutionnaires en économie ?
Oh non, Marie, je vous rassure. En effet, Joshua Angrist, qui avait également montré en étudiant l'immigration yougoslave dans les années 90 en Europe, que le chômage augmentait bien plus fortement quand les institutions du marché du travail et du marché des biens et services étaient rigides. Autrement dit, et là on retrouve quelque chose de plus classique, pour diminuer le chômage, il faut assouplir le marché du travail, déréguler et encore déréguler. En gros, réaliser enfin le rêve de l'Union européenne, libéraliser totalement le marché du travail. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait l'Espagne et la Grèce. On voit effectivement que ça a largement contribué à diminuer leur taux de chômage. Marie, je vois sur « je plaisante ».
Presque, oui.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, on flirte encore, enfin ces pays-là, hein, malheureusement, flirtent encore avec les 16% de la population active au chômage.
Alors, Soizic, quelles leçons on peut tirer de ce prix Nobel partagé finalement ?
Eh bien, les travaux couronnés, qui vont à l'encontre de ce que la science économique dominante nous enseigne depuis 40 ans, et au passage que l'on est d'ailleurs censé apprendre aux élèves qui suivent la spécialité de sciences économiques et sociales au lycée, montre bien une fois de plus, et c'est cela qui est passionnant en sciences sociales, que ces sciences ne peuvent pas se résumer à une mise en équation du monde. Ce qui est vrai ici ne l'est pas forcément ailleurs. Des contextes, des institutions et des environnements différents appellent des solutions différentes. Il faut donc se garder de tout dogmatisme et de la tentation de répliquer à l'envi un même remède sur des situations critiques différentes. Adaptation, souplesse, réflexion et esprit critique, telles sont les qualités à ne jamais perdre de vue quand on veut faire intelligemment de l'économie.